Et last but not least, nous continuons ce tour des situations associatives avec Aurélie Andouche du syndicat des musiques actuelles. Donc bonjour Aurélie.
Bonjour.
Ou plutôt bonsoir vu l'heure.
Bonsoir, effectivement.
Mais merci de nous rejoindre à cette heure un peu tardive. Ça fait déjà 3h30 qu'on parle de la situation des associations et des situations budgétaires qui sont en train d'apparaître pour elles ou de se confirmer, malheureusement. Mmh. Mais peut-être avant de partir sur ces questions-là, le syndicat des musiques actuelles, qu'est-ce que c'est ?
Alors, le syndicat des musiques actuelles, le SMA, c'est une organisation en fait, qui regroupe 600 adhérents dans la filière des musiques actuelles. Concrètement, ce sont un quart de salles de concert, dont des salles labellisées SMAC, je pense par exemple à Amiens, à la Lune de Pirates. C'est aussi un quart de festival, un quart de structure de production de spectacles, et un quart qui va être composé de radios, donc comme Campus Amiens, mais aussi des labels, des centres de formation et des réseaux et fédérations. Et donc, le point commun entre nos 600 adhérents, c'est de revendiquer aussi nos lucrativités limitées. Concrètement, ce sont 75% pour 75% des associations, mais aussi des coopératives, parfois des établissements publics, et puis des sociétés commerciales. Et en fait, ce que tout le monde a à cœur au niveau des adhérents, c'est de mener à bien des projets en faveur des musiques actuelles sur l'ensemble du territoire pour montrer, pour faire émerger des nouveaux artistes et pour les faire découvrir à des populations.
Et alors, à l'occasion des débats budgétaires qui sont engagés en octobre à l'Assemblée nationale, puis maintenant au Sénat, le SMA a choisi d'axer principalement son intervention sur trois questions. Tu peux nous en parler et puis peut-être nous dire pourquoi ces choix ont été faits.
Alors d'abord, il faut avoir en tête que quand le gouvernement, en l'occurrence la ministre de la Culture, pour ce qui nous intéresse, a présenté son budget, donc c'était début octobre, il y a en tout 200 millions d'euros de coupes sur le budget de la culture. Donc évidemment, ça a été d'abord quand même difficile d'apprendre toutes ces mauvaises nouvelles. Et après, en fait, évidemment, il faut un peu choisir ses combats, on ne peut pas tout mener de front. Donc on s'est dit avec le Conseil national du SMA, qu'il fallait qu'on choisisse sur quoi on allait partir prioritairement. Donc là, les lignes budgétaires qui sont les plus attaquées à notre sens dans le budget, et je mettrai de côté la coupe très forte qui est faite à l'endroit des collectivités territoriales, puisque dans ce projet de budget, il y a 4,8 milliards de projets de réduction de financement de l'État aux collectivités, ce qui est évidemment dramatique, parce qu'on sait que les collectivités sont les premiers financeurs de la culture. Donc je mets ça de côté, parce qu'évidemment ça c'est un fil rouge et on se bat aussi là-dessus. Mais pour les combats qui sont vraiment les nôtres, on a décidé d'axer sur trois sujets. Le Centre National de la Musique, le Fonds de soutien à l'expression radiophonique, et j'imagine que vous en avez déjà pas mal parlé ce soir, donc ce qui vient financer les radios associatives. Et puis le Fonds PEPS, le Fonds pour l'emploi pérenne dans le spectacle. Donc on a choisi en fait d'axer là-dessus. Et évidemment, on rappelle aussi aux parlementaires avec lesquels on échange que pour nous, les questions de financement de la création et les financements de l'action culturelle sont aussi importants. On s'est dit que ça serait des combats secondaires dans le cadre de ce projet de loi de finances, dans le sens où ces deux lignes sont moins impactées que les autres. On aurait seulement, et je mets beaucoup de guillemets, des baisses de 3 et 4% respectivement sur ces lignes-là, alors que de l'autre côté, du côté CNM, FSER et Fontaine, les coupes à craindre sont bien plus importantes, donc on a choisi de prioriser sur ces trois combats-là.
Alors, nos auditeurs me disent qu'il faudrait que tu t'éloignes un tout petit peu du téléphone.
Ok, là c'est mieux comme ça ?
Là c'est déjà mieux, encore un tout petit peu et ça va être nickel.
Ok, très bien.
Merci beaucoup. Alors, attaquons déjà sur cette question des emplois, puisque le Fonds PEPS, c'est quand même un dispositif très particulier dans le monde de la culture. Qu'est-ce qui visait et donc quelles sont les conséquences que pourrait avoir sa diminution annoncée ?
Alors le Fonds PEPS, donc en effet, c'est un dispositif qui existe depuis 2017. Et à l'origine, en fait, il a été créé pour soutenir l'emploi dans le secteur du spectacle au sens large, spectacle vivant et spectacle enregistré. L'objectif aussi, c'était de sortir des salariés de la permittence, donc des salariés qui étaient intermittents alors qu'ils pourraient être permanents, en mettant en place des dispositifs incitatifs pour encourager les entreprises à embaucher des salariés en permanent. Donc depuis 2017, ce dispositif prospère et fonctionne plutôt bien. Par an, c'est à peu près un budget de l'ordre de un peu moins de 60 millions d'euros qui est dédié au fonds PEPS. Et le fonds PEPS, donc, comprend plusieurs aides à l'attention des entreprises. Donc il y a d'abord une aide pour aider les entreprises à embaucher des salariés en CDI sur des métiers qui sont éligibles à l'intermittence. Donc l'idée, c'est de dire, bah, plutôt que de prendre, par exemple, un chargé de production en intermittent, si vous le prenez en permanent, vous allez avoir une aide. Si vous prenez un directeur ou une directrice technique en permanent plutôt qu'en intermittent, vous allez avoir une aide. Et en l'occurrence, cette aide, elle est de 10 000 euros par an pendant 3 ans. Donc on voit que c'est quand même assez incitatif. Ça, c'est la première aide. Ensuite, on a une autre aide qui vise vraiment à inciter à la découverte et à l'émergence. C'est l'aide à l'embauche dans les salles de moins de 300 places. Pardon. Donc là, l'objectif, c'est vraiment d'inciter les petites salles de concert à venir montrer des nouveaux artistes. On sait qu'évidemment, tous les artistes qu'on connaît aujourd'hui qui font des stades, des arénas, de l'international, ils sont passés d'abord dans des cafés-concerts, dans des petites salles, dans des petites smacks, dans des petites jauges. Et donc, l'objectif, c'est d'encourager cette prise de risque en venant prendre en charge une partie des cotisations sociales. Plus le plateau est nombreux, plus l'aide va être conséquente. Et la dernière aide qui existe, c'est pour venir aider sur l'enregistrement phonographique. Et c'est le même dispositif, on va dire. Plus il va y avoir d'artistes et de techniciens dans le studio, plus l'aide va être incitative. L'objectif, c'est vraiment de favoriser la diversité et de se dire que nous, on ne veut pas se résigner à avoir plus que des solos, des duos ou des trios, mais qu'on veut pouvoir continuer à avoir des enregistrements avec un peu d'orchestration, avec plusieurs musiciens. Et donc, grâce à cette aide du fonds PEPS, ça va être possible. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que depuis 2017, ce dispositif, il est largement utilisé par les structures, par les entreprises du secteur. Il coûte entre 55 et 60 millions selon les années. Et là, on découvre, quand le projet de budget est présenté par le gouvernement début octobre, que sur le papier, ne sont inscrits que 35 millions d'euros pour 2026. Donc évidemment, c'est la bouche froide en se disant où est-ce que ça va couper, parce que si on appuie ces aides-là, forcément ça va venir porter sur l'emploi. Hein. Très concrètement, on va moins embaucher d'artistes, on va moins embaucher de personnes en CDI, on va moins embaucher de techniciens, donc il y aura moins de choses qui vont être montrées sur les plateaux et puis qui vont être aussi enregistrées. Et la mauvaise douche froide date de pas plus tard que de ce matin, puisqu'en fait le fonds PEPS est en cours de renouvellement. Le nouveau décret, c'est un décret pour 3 ans, à chaque fois ce sont des périodes triennales. Donc là, le fonds PEPS dans sa forme actuelle s'éteint au 31 décembre 2025. On attend un nouveau décret pour la prochaine période, donc a priori de 3 ans. Bon, après, un décret peut être d'1 an, de 2 ans, donc à partir de 2026. Et là, le ministère de la Culture nous apprend ce matin qu'ils veulent déjà dessiner de nouveaux fonds PEPS à l'intérieur de cette enveloppe de 35 millions d'euros, alors même que les sénatrices et les sénateurs vont discuter le budget culture demain et après-demain au Sénat. En l'occurrence, le fonds PEPS, ça sera vendredi matin. Donc c'est vraiment un déni de démocratie. Évidemment, personne ne sait, hein, encore une fois, si ce budget va être voté. On a une grosse surprise hier avec le vote du budget de la Sécurité sociale. On ne sait pas si le budget général de l'État va être voté. Mais en tout cas, de d'ores et déjà décider que le budget du fonds PEPS va être de 35 millions, alors que plusieurs sénatrices et sénateurs ont déposé des amendements pour le faire remonter, c'est vrai qu'on a du mal à comprendre. Et donc là, c'est vraiment mobilisation active de l'ensemble des sénatrices et des sénateurs pour faire en sorte que cet amendement pour revenir à un budget de 60 millions d'euros sur le fonds PEP soit voté vendredi matin et non pas qu'on parte avec un dispositif qui, là, dans ce cas-là, perdrait 40% des moyens qui lui sont dévolus.
Donc ce premier axe, sa conséquence, si on peut la résumer en quelques mots, c'est retour à une plus grande précarité dans un secteur qui n'en manque déjà pas, tant chez les artistes que chez les techniciens.
C'est exactement ça. En fait, souvent dans les échanges qu'on a avec les collègues, on se dit que ça fait, dans les musiques actuelles, une vingtaine d'années qu'on est vraiment en phase de professionnalisation. Il n'y a quand même plus beaucoup d'endroits où on paye les premières parties au black, comme ça se faisait beaucoup à l'époque, où on donnait 150 euros à la première partie, où on sort de plus en plus de la permittence. Sauf que là, avec ce contexte qui ne cesse de se dégrader, avec la baisse des financements de certaines collectivités territoriales, je pense par exemple à la région Grand Est qui annonce 10% de coupes dans ses budgets culture. Là, ce dont on est en train de parler sur le budget de l'État, à différents endroits, on va parler après du Centre National de la Musique. Évidemment, en fait, tout ce qu'on a structuré, tout ce qu'on a professionnalisé, ça risque de se détricoter et de fil en aiguille, on risque de revenir à des pratiques un peu plus DIY, à des choses, enfin voilà, plus comme qui existaient il y a 20 ans, en dépit de tout ce qu'on aura passé comme temps à structurer, parce que évidemment les musiciens ne vont pas arrêter de jouer, on aura toujours envie d'aller voir des concerts, mais peut-être qu'on n'aura plus les moyens de les voir dans des conditions aussi professionnalisées qu'on connaît aujourd'hui. Donc peut-être qu'on va assister malheureusement à un retour en arrière avec ces fortes coupes qui portent sur le budget de la culture, mais encore une fois, pas uniquement sur le budget de la culture. Je pense qu'on est plusieurs secteurs du service public à les connaître, et c'est ça qu'on a absolument envie de défendre.
Et alors, donc, justement, tu évoquais le deuxième axe, qui est donc le Centre National de la Musique. Tu peux rappeler déjà en quelques mots les fonctions du CNM, qui n'est pas forcément très connu par le grand public, en tout cas le public de notre radio?
Ouais, tout à fait. Le Centre National de la Musique, on va dire qu'on a un peu le petit frère du CNC, qui est sans doute plus connu, parce que le CNC pour le cinéma, il existe depuis 1946, hein, il est né juste après la guerre, un peu comme un outil de soft power pour aussi venir défendre le cinéma français partout dans le monde, pour pas être uniquement à la botte des blockbusters américains. Et donc le CNM, nous, on est beaucoup plus récent, on date de 2020. Donc on est né le 1er janvier 2020, juste avant la crise sanitaire. Donc ça a été vraiment un baptême du feu assez vite. Et l'objet du CNM, en fait, c'est de rassembler l'ensemble de la filière musicale. Donc on dit qu'on est la maison commune de la musique, à la fois la partie phonographique, mais aussi la partie concert, avec différents volets au Centre National de la Musique, des aides qui vont être fléchées vers les différentes entreprises de la filière musicale, mais aussi un axe fort au niveau des études pour faire de la prospective, pour voir comment se comporte le secteur et puis ce qu'il faut mettre en place pour accompagner les mutations de la filière musicale, et puis également des aspects formation, information, aide à l'export, conseil, voilà, qui font de ce centre quand même un bras droit de la politique publique musicale, puisque l'établissement est placé sous la tutelle du ministère de la Culture.
Et donc les conséquences imaginables, on les connaît.
Alors là, en fait, ce qu'on découvre dans ce budget pour le Centre National de la Musique, en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le centre, comme au cinéma, en fait, quand on va voir un film au cinéma, il y a une partie du prix des billets qui vient alimenter le Centre National du Cinéma. C'est exactement la même chose dans la musique. Quand on va voir un concert, on ne le sait pas, mais on paye, il y a 3,5% du prix du billet qui va venir alimenter le Centre National de la Musique, donc sur une place de concert, sur une place de festival. Voilà, il y a cette somme-là qui est fléchée vers le Centre National de la Musique. Il y a une partie, en fait, de ces 3,5% qui va revenir directement au producteur de la date, à celui qui organise le concert ou le festival. C'est ce qu'on appelle le droit de tirage, l'aide automatique. C'est encore une fois la même chose que dans le cinéma, et il y a une partie qui va aller alimenter en fait des aides, donc ça s'appelle les aides sélectives. Ça va permettre par exemple d'aider des festivals en milieu très rural, ça va permettre d'aider des tournées de nouveaux artistes, ça va permettre aussi d'aider des nouveaux albums, des projets en faveur de la transition éco, des projets aussi en faveur de l'égalité femmes-hommes, des nouvelles créations pour des artistes-auteurs, donc tout un tas d'aides qui viennent vraiment renforcer le secteur et puis pallier, corriger en fait ce que le marché ne fait pas, parce qu'évidemment le CNM ne va pas aider des concerts ou des tournées dans des arénas ou dans des salles, parce que là il n'y a pas besoin, le marché fait son œuvre et ça fonctionne. En revanche, vous doutez bien que d'aller faire une tournée d'un nouvel artiste, de la future Zao Zagazan, ou d'aller jouer au fin fond de la Haute-Saône ou de la Creuse, bah, c'est pas toujours rentable, et que s'il n'y avait pas d'aide publique pour cela, ces concerts-là ou ces tournées-là n'existeraient pas et donc ne verrait pas le jour. Donc ça a évidemment un problème en termes de création, en termes de soutien à la création, de l'émergence, mais aussi d'équité territoriale. Donc c'est ça que le CNM vient faire, et le CNM perçoit une autre taxe depuis peu, depuis 2 ans, dont on a pas mal parlé, je pense que y compris au niveau des publics, ça s'était pas mal su à l'époque, c'est la taxe streaming. Et donc le CNM perçoit aussi cette taxe depuis 2 ans, donc une partie des abonnements et puis des revenus également sur les différentes plateformes streaming revient au Centre National de la Musique, là pour aider cette fois plutôt la partie phonographique. La taxe billetterie va aider plutôt tout ce qui relève du live, et donc tout ça vient alimenter les différentes aides de l'établissement. Et là, ce qu'on a découvert malheureusement dans ce projet de budget, c'est non seulement une volonté pour l'État, donc clairement pour Bercy, hein, pour le ministère des Comptes Publics, de plafonner ces aides-là, que ce soit la taxe billetterie ou la taxe streaming, C'est-à-dire que dès lors qu'on dépasse un certain montant de taxes, tout ce qui est au-dessus repart au budget général de l'État, donc repart à Bercy pour alimenter le fonctionnement global de l'État. Donc même si on a une filière qui est très dynamique, qui fonctionne bien, qui a des gros stades, etc., plutôt que ça vienne alimenter un cercle vertueux et alimenter des futurs articles, des futures tournées, eh ben nous, ça sort de la filière musicale et ça repart à Bercy. Et puis d'autre part, en plus de ce plafonnement des taxes, ce qu'on découvre aussi, c'est que l'État qui finance en budgétaire sur son budget une partie du fonctionnement du Centre national de la musique, notamment pour toutes ses missions d'intérêt général, pour tout ce qui est formation, pour tout ce qui est transition écologique, égalité femmes, etc. Toutes ces aides-là, elles seraient en baisse. Aujourd'hui, le CNM bénéficie de 27 millions d'euros de financement de l'État. Et là, l'État prévoit une baisse de 7 millions. Donc on passerait de 27 à 20 au niveau du financement du CNM. Donc c'est contre ça qu'on se bat. Aujourd'hui, on a absolument besoin de continuer à avoir la dynamique du Centre national de la musique pour apporter un peu de régulation. Et pour ne pas finir sans aucune régulation, comme c'est le cas dans les pays anglo-saxons, ou, pour caricaturer un peu à l'extrême, à part des concerts dans des grands stades, dans des grandes arénas et uniquement dans les métropoles, il n'y a plus grand-chose d'autre sur le territoire. Et évidemment, c'est contre ça qu'on se bat pour avoir une vraie équité territoriale et avoir aussi un prix de billet accessible pour l'ensemble des concerts.
Donc, si on résume ce qu'on vient d'entendre sur la philosophie du budget d'État, ça serait plus de précarité pour les pros du secteur culturel et moins de soutien aux événements et aux activités musicales les moins commerciales.
C'est ça.
C'est un beau tableau.
C'est un beau tableau.
Et je ne parle pas du FSER auquel on a consacré un long moment au début de cette émission. Et il me semble que vous avez aussi pris pour le SMA des positions assez fermes sur ce qui se passait avec le pass culture depuis la rentrée scolaire.
Alors effectivement, au SMA, quand on a eu la connaissance de la création du pass culture, on a bien conscience que c'est une volonté présidentielle. Donc on ne va pas la faire changer. À un moment donné, le président de la République a décidé qu'il y a un pass culture. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est autant faire en sorte qu'il marche le mieux possible. On sait que de toute façon, le budget qui est affecté au pass culture ne reviendra jamais sur le budget du ministère de la Culture. C'est une volonté présidentielle, dont acte. Ce qu'on a essayé de faire, de travailler avec la société du pass culture, c'était de faire en sorte qu'il y ait un maximum d'argent qui aille aussi sur la part collective. C'est ce qui nous semble le plus intéressant dans le projet du pass. C'est toute la partie action culturelle, c'est comment aller chercher des nouveaux publics, comment aller chercher des collégiens, des lycéens, leur faire rencontrer des artistes, les mettre devant des concerts qui seraient pas forcément venus voir. Donc c'est vraiment ça qu'on a essayé de faire avec ce projet-là. Et là, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que de toute façon, ce projet de passe culture, il est quand même décrié depuis un moment, notamment sur sa part individuelle. Alors on comprend évidemment les jeunes bénéficiaires, je pense que si on avait reçu ça... initialement les 500 euros à nos 18 ans, je pense qu'on aurait été fous de joie de pouvoir dépenser tout cet argent. Sauf qu'on se rend compte malheureusement que ça crée pas forcément d'habitude chez les jeunes spectateurs, que c'est quand même les spectateurs qui venaient déjà qui continuent de venir, et qu'en tout cas cet argent-là, il continue d'être dépensé principalement sur les têtes d'affiche et pas du tout sur la découverte. Quand on en discute avec certains adhérents, par exemple si on prend les salles de jazz ou les plus petits clubs, ils ont très très peu, ça se compte sur moins des lois des deux mains qui viennent avec le pass culture. Donc ça reste, en fait, ça continue d'encourager une fréquentation qui était déjà là avant. Et donc nous, ce qu'on demande, c'est que ces moyens-là soient davantage fléchés sur l'action culturelle. Je pense que là, on est arrivé à un tel point dans le budget de l'État qu'on voit qu'il y a carrément des amendements, notamment le rapporteur général du budget au Sénat, a demandé complètement la suppression de la part individuelle du pass culture. Je crois que ça représente 87 millions d'euros, tout simplement pour que ça revienne au budget général de l'État. Enfin, c'est même pas pour les réinfecter au ministère de la Culture, c'est qu'en fait, on a bien compris que Bercy et que les commissions des finances cherchaient à faire des économies de partout, et que comme cette part individuelle, elle est décriée vraiment largement, là, il y a carrément une proposition d'amendement pour la supprimer. Donc on verra, ça va arriver dans les débats, ça sera vendredi, ça.
Eh ben c'est réjouissant, tous ces projets. Donc, le gros enjeu pour les jours qui viennent, c'est passage du budget de la culture demain et après-demain au Sénat. Et donc, on le rappelle encore une fois, n'hésitez pas à continuer à interpeller vos élus locaux. C'est eux qui parlent à l'oreille des sénateurs. Et donc, c'est le bon biais. Justement, en parlant de ces élus, parce qu'il va aussi y avoir des élections municipales bientôt, et au dernier congrès du SMA, on a beaucoup évoqué le fait que les élus, aujourd'hui, ils viennent visiter les lieux culturels, mais qu'ils ne parlent plus aux gens de la culture, qui n'ont plus le vocabulaire, qui n'ont plus le rapport humain à l'action culturelle, que ça n'est plus qu'une politique locale parmi d'autres ou des lieux d'exposition médiatique, on va dire, pour être gentil. Est-ce que le SMA envisage de mener aussi un travail dans ce domaine dans les mois qui viennent ?
Alors là, en fait, faisant le constat qu'effectivement la culture ne fait plus forcément consensus, comme c'était le cas quand même encore ces dernières années, hein, on voit que par exemple le premier projet de Centre national de la musique, qui n'a pas émergé alors, mais était quand même à émaner d'un gouvernement de droite, hein, on était à ce moment-là sous l'ère Sarkozy, on voit qu'il y a quand même pas mal de politiques publiques culturelles qui ont émané tant de politiques de droite que de gauche, ce qui n'est absolument plus le cas aujourd'hui, et d'ailleurs un peu des deux côtés malheureusement. On s'est dit qu'il fallait absolument qu'on remette la culture sur le haut de la pile en vue des municipales 2026. On parle là beaucoup du PLF, du projet de loi de finances 2026. C'est effectivement crucial pour les politiques culturelles, mais ce qui est encore plus crucial, c'est l'échelon municipal. Il faut avoir en tête que la culture et les musiques actuelles n'échappent pas à cette règle, sont avant tout financées par les communes, par les communautés d'agglomération et puis les communautés de communes et les métropoles. Donc là, on a un vrai travail à faire à ce niveau-là. Et donc, ce qu'on a décidé de faire en vue de ces échéances municipales qui vont avoir lieu le 15 et le 22 mars prochain, c'est qu'on a décidé d'adresser un questionnaire aux partis politiques pour interpeller en fait les différents partis politiques sur un certain nombre de sujets qui nous sont propres, évidemment pour leur parler budget, mais pour leur parler aussi action culturelle. Comment comptez-vous faire ? Comptez-vous continuer à faire de l'action culturelle ? Est-ce que vous comptez continuer à le faire via des appels à projets qui sont usants, qui demandent beaucoup de travail ? C'est souvent des dizaines d'appels à projets qui sont menés par les structures culturelles, si bien que on peut se poser la question que parfois on passe plus de temps à monter des appels à projets que réellement faire de l'action culturelle. Ça met en plus les acteurs culturels en concurrence les uns avec les autres. Dans ce questionnaire, on leur pose la question aussi de savoir comment ils entendent avoir un équilibre territorial au niveau des acteurs entre le Zénith qu'il peut y avoir dans la ville, l'Arena, la SMAC, le café-concert, le festival, les salles indépendantes. Comment est-ce qu'on arrive à préserver tout cet environnement et qu'il n'y en ait pas un qui soit dominant et qui mange les autres, parce que c'est un peu quand même ce qui se passe en ce moment. On leur pose aussi des questions en termes de liberté de création, en termes de censure. Est-ce que c'est le rôle d'un élu de s'immiscer dans des programmations artistiques et culturelles, ou est-ce que son rôle c'est de financer, mais de la déléguer, de la confier, comme le consacre la loi Création, Architecture et Patrimoine de 2016. Donc ce questionnaire, on l'a envoyé à tous les partis politiques, on les a quasiment tous rencontrés. Encore ce matin, on rencontrait ensemble le parti macroniste sur ce sujet. On a vu le Modem, les écolos, LFI, les communistes, Génération et les socialistes. On va bientôt voir les LR, j'espère. Et par contre, malgré nos moult relances, on n'a pas encore eu de retour de la part de l'extrême droite qu'on aimerait bien quand même entendre sur ce sujet. Et puis, pour aller jusqu'au bout de ce travail, on a aussi fait un échantillon d'une petite quinzaine de villes pour avoir des retours plus terrain. Et donc là, ce questionnaire, on l'a envoyé aux principaux candidats dans cette quinzaine de communes pour avoir des retours assez terrain et pour savoir concrètement ce que les élus de tel ou tel parti envisagent de faire en matière culturelle. Ce qu'on veut, vous l'avez compris avec cette démarche, c'est que le sujet culturel devienne un enjeu important du programme, qu'on en parle, que ça fasse l'objet de débats au niveau des listes et des candidats. Et donc, tout ce travail-là, on va le présenter aux BIS. Les BIS, ce sont les Biennales Internationales du Spectacle. Ça aura lieu mi-janvier à Nantes. Et donc, on publiera en fait l'ensemble de ces réponses avec aussi nos doléances en matière de politique publique pour les musiques actuelles.
Et on en reparlera probablement très bientôt sur nos antennes, puisque le collectif Haute Fidélité pour les Hauts-de-France organise un débat à Amiens avant les élections sur la question de la place de la culture dans les programmes municipaux. Donc on y reviendra. Eh bien, merci beaucoup Aurélie d'avoir participé à cette émission à une heure aussi tardive.
Avec plaisir. Merci pour l'invitation.
On se quitte pour quelques minutes et on retourne voir Bonnie dans son petit studio qui nous a préparé un nouveau morceau.
Et oui, rebonsoir dans le petit studio, effectivement, dans le petit studio où il se passe de grandes choses. Et on continue toujours en fil rouge d'arpenter les rues artistiques de la ville d'Amiens. Et il se fait tard, on arpente les rues, on commence à être un petit peu fatigué et il est impossible. Si vous arpentez les rues de cette ville, de ne pas connaître mon prochain invité qui est Dr Chon. Salut.
Salut Bonnie.
Salut, comment vas-tu?
Ça va bien et toi?
Alors, est-ce que tu veux parler avec ou sans les fées?
Je préfère parler sans.
Sans, on est d'accord.
Ouais.
Alors, tout à l'heure, encore une fois, j'avais dit, écoute, les rappeurs aiment parler avec les fées, mais je me suis trompée.
Ça dépend, des fois je suis rappeur, des fois je suis chroniqueur radio, des fois je suis animateur, dans tous les cas, c'est des effets différents.
C'est vrai, tu es d'abord poète?
Avant tout.
Avant tout, et tu as un dernier morceau qui est sorti il n'y a pas longtemps aussi qui s'appelle...
Un morceau qui s'appelle Freelance.
C'est ça.
Moi-même j'ai cherché alors que c'est mon morceau, c'est pas logique.
Alors que, oui, effectivement, ton morceau commence par « Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Chon ?»
Je suis poète en freelance.
T'es poète en freelance.
Je suis au studio le dimanche.
T'es au studio le dimanche.
Et j'y reste toute la nuit.
Toute la nuit. Et pareil, les locaux de Radio Campus, tu les connais bien?
Ça va, ça va, je m'en sors bien.
Ouais, et t'es à la fois chroniqueur aussi, comme tu disais tout
à l'heure.
Ouais,
ouais, régulièrement avec l'émission, le podcast.
C'est ça, et alors ma seule question ce soir, c'est de savoir en quoi est-ce que la radio a pu t'aider, te booster, créer des choses en toi.
Je dirais que, comme toute personne qui aime un peu certaines formes d'art, oui, la radio c'est une étape, comme le premier concert, comme c'est une première fois qui est très intéressante quand t'aimes ce genre d'exercice. C'est pour ça que j'ai accepté d'être chroniqueur radio, pour vivre une expérience un peu différente de celle que je connaissais d'habitude.
Ça peut te pousser à des choses.
Complètement.
Complètement. Ce soir, tu vas nous interpréter un morceau. Je t'ai demandé si tu avais tout à l'heure un mot pour qualifier ce morceau.
Ouais.
Alors, tu as triché, tu en as donné plusieurs.
J'en ai donné au moins 60.
70, pour être précise. Ah. Mais en soi, tu as surtout évoqué le souvenir.
Tout à fait.
Tout à fait. C'est un morceau avec du piano.
Oui.
Ta sœur jouait du piano, donc.
Ma sœur jouait du piano et ma sœur jouait beaucoup la mélodie sur laquelle j'ai écrit. C'est une mélodie connue, ce que c'est extrait du film Amélie Poulain, c'est une mélodie de Yann Tiersen.
Très bien. Je ne vois pas de meilleure introduction. Alors si on est prêt, je pense que
Let's
vous
go.
Êtes prêt. En tout cas, je le suis. C'est Dr Chon.
J'achète la cam avec l'argent de la CAF. Je me pète le crâne en attendant le braquage. Avant que je débarque en mode hall et m'invite la caisse. Je me sens à part depuis gamin, depuis la crèche et le temps presse. Parce que par chez moi c'est la crise, je me méfie de vos sourires, genre t'essaies de plaire à qui? J'étais pas le style premier de la classe. Je mangeais des coups, je fermais ma gueule, je mettais de la glace. Ça manque de place pour l'espoir dans ma tête dure. En vrai, croire en moi j'aurais peut-être dû. Plutôt que de me remplir les poches avant que le temps m'emporte comme les proches qu'on a perdus. Et je me rappelle qu'avec la MIF on s'appelle pas souvent. J'ai de l'amertume, j'en ai assez d'avancer face au vent. Je me soigne en faisant des rimes plusieurs fois par semaine. Et je fais les 100 pas toute la nuit quand j'ai pas sommeil. Et je fais les 100 pas toute la nuit les fois où je suis mal dans ma peau. Je travaille mon flow sous la pluie. Si l'inspiration tombe à pic, ça m'aide à remonter la piste. Rapper c'est ma thérapie. Et je fais les 100 pas toute la nuit les fois où je suis mal dans ma peau. Je travaille mon flow sous la pluie. Si l'inspiration tombe à pic, ça m'aide à remonter la piste, trapper c'est ma thérapie. Depuis petit, j'ai la rage comme un DZ. Je suis indécis, je mérite mon 10 en disserte. Sur l'antisèche, c'était écrit fuck le 17. Et aujourd'hui, j'arrive sur scène comme la cerise sur le dessert. Je cours derrière le bonheur, même si je le vois pas d'ici. J'ai beau regarder en l'air, à ce qui paraît, y a des signes. À ce qui paraît, le bonheur ça se décide. Je mélange la weed et la résine comme les couleurs dans mon dressing. Si je réponds pas, je suis occupé à fumer max de cône. Au bord de la noyade, j'ai bu la tasse de trop. Ouais, peut-être j'aurais dû apprendre la brasse, le crawl. Et cette phase, j'espère tu la captes comme un partage de co. Je suis sur le coup, j'ai quelques projets sous le coude. Y a que des cous, y a que des frangins dans le crew. On faisait la cour derrière la cour de l'école. Les yeux sur le compte à rebours, dehors il pleut des cordes. Et je fais les 100 pas toute la nuit, les fois où je suis mal dans ma peau, je travaille mon flow sous la pluie. Si l'inspiration tombe à pic, ça m'aide à remonter la piste, rapper c'est ma thérapie. Et je fais les 100 pas toute la nuit, les fois où je suis mal dans ma peau, je travaille mon flow sous la pluie. Si l'inspiration tombe à pic, ça m'aide à remonter la piste, rapper c'est ma thérapie.